RTL.
RTL, première radio de France.
Vous nous écoutez depuis le bout du monde ?
Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles.
Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct.
Inscrivez-vous sur rtl.fr,
rubrique Les auditeurs du bout du monde,
pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL.
Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h. Sur RTL.
Bonjour, ce pourrait être une devinette pour adeptes du dépassement de soi-même. Maud Fontenoy et Jean-Louis Étienne sont sur un bateau. S'ils tombent à l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Étienne atterrit sur la banquise et Fontenoy s'agrippe à son mât. La petite Maud a couru les plus grands risques en entreprenant pendant 151 jours un tour du monde à l'envers et à contre-courant. Bien que cette fois, elle n'ait pas eu à ramer, elle est revenue avec de grosses cloques dans les paumes. À force d'avoir réparé son bateau avec des outils de fortune et de s'être accrochée frénétiquement à sa performance, à son radiotéléphone et à son désir de retrouver quelques semaines plus tard sur la terre ferme le séducteur de sirène dont elle fera le père de ses enfants. En attendant, elle a trouvé que la mer n'avait jamais été aussi grosse, sans doute parce qu'elle n'avait jamais autant pleuré. Alors, après 5 mois de bateau, quelques minutes de cheval. Peut-on induire de votre fin de course que le mât n'est pas indispensable à la navigation à voile ?
Un petit mât, j'avais quand même, pour revenir au port.
C'est comment ça s'appelle ? Baume ?
La baume, voilà, exactement. La partie en fait, horizontale qui tient la voile, je l'ai redressée pour m'en faire un petit mât de 11 mètres. Donc celui de 30 est tombé, un petit mât de 11 mètres.
Et le garçon qui vous a vendu le bateau, et dont on parlera tout à l'heure, parce qu'il a fait des déclarations qui appellent sûrement de votre part des précisions, a dit qu'il avait laissé volontairement sur le bateau la baume pour que éventuellement elle puisse vous servir. Hein.
C'était pas exactement ça, en fait. Il avait prévu que la baume puisse s'accrocher et rester associée au pont pour pouvoir la redresser.
Alors, le mât craque. Hein.
Tombe.
Tombe. C'est d'ailleurs curieux, je crois que c'était arrivé aussi une fois à Kersauzon, des mâts qui sont extraordinairement solides, enfin vendus comme tels.
En carbone, oui.
Avec des matériaux extrêmement modernes et résistants. Et puis qui se fracasse un jour ?
Oui, c'est vrai que c'est des matériaux qui sont solides, mais qui sont fragilisés par les conditions de mer. Moi, j'ai fait le tour à contre-courant, donc ça implique de remonter au pré sans arrêt. Et des vagues de 10-12 mètres, quand on monte la vague et qu'on retombe, ça tape beaucoup. Donc il y a beaucoup de vibrations et je crois que le mât était fatigué.
Enfin, il est quand même conçu pour résister à ça, en principe.
Il était censé. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il tienne jusqu'au bout, oui.
Vous vous retournez éventuellement contre les gens qui vous l'ont vendu ?
Non, pas du tout. Non. Puis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une assurance. Donc là, merci.
Hein. Pas l'express comme ça, Philippe. Vous savez, il y a des mâts qui ont brûlé sur des bateaux. Il ne restait pas grand-chose. Ah, les cendres du mât.
Ah, c'est beau, ça.
Ah, bah oui, mais...
C'est un à peu près. Hein.
Si je ne le place pas là, je ne le placerai jamais.
Non, pas jamais. Alors, le mât tombe. Est-ce que vous avez eu envie de crier pouce ?
Oui, ça m'est passé par la tête quand même, un petit moment quand même. Je me suis retrouvée dans ma combinaison de survie, à mon canot de sauvetage prêt, à me demander ce que je mettais dans le canot de sauvetage et prête à tout simplement être à la dérive toute seule sur l'océan Indien. Donc, c'était pas un moment très agréable puisqu'il a fallu attendre que la nuit se termine pour pouvoir sortir dehors et agir, soit couper ce bout de mât qui cognait contre la coque du bateau et qui pouvait la perforer à tout moment.
Alors, il a fallu faire une réparation de fortune.
Pas vos mains, il paraît que vous êtes beaucoup blessé les mains.
Ah, elles vont mieux mes mains, j'ai toujours mon pouce qui est cassé, qui est un peu tordu, mais on va apparemment me le recasser pour le remettre droit, mais c'est pas le plus grave.
Il faut être bricoleur en plus. Hein.
Bah, figure-toi que moi je suis pas trop du genre bricoleuse, tu vois, je suis dans le genre très très fille.
Vous tutoyez Philippe, vous.
Oui, bah, on se connaît très bien.
Bah,
on
a fait,
on était au club Mickey ensemble, à Saint-Malo.
Elle t'a tripoté le mât ?
Non, mais on est... Mais moi, il s'est pas cassé.
Ah, vous connaissez
bien. Vous avez réfléchi pendant quelques heures, puis vous vous êtes attaqué à la réparation.
Ça m'a quand même pris une semaine, c'est-à-dire que j'ai morcelé vraiment étape par étape.
On vous a, par radio-téléphone, briefé un peu pour cette réparation ?
Absolument, ouais, j'avais mon papa en ligne qui m'a filé 2-3 conseils, donc ce qui m'a servi, parce qu'en général, quand il y avait du bricolage à faire sur le bateau, c'était toujours un de mes frères qui venait me filer un coup de main, donc là, je me retrouvais bien toute seule. Et puis, il a fallu que je trouve pas mal d'astuces pour pallier le déficit de force physique avec tout simplement des petites tactiques, avec des retours de poulies, avec tout ce qui revenait au cockpit au winch, donc je fais beaucoup d'aller-retour.
Alors, il restait une petite voile, mais toute petite par rapport à la voile normale.
Oui, j'avais une très très grande voile qui mesurait près de 200 mètres carrés, donc la surface d'un terrain de tennis. Et là, d'un seul coup, j'avais une toute petite voile de 25 mètres carrés.
Ce qui fait que pour la dernière partie de la course, vous avez un peu traîné, on peut
le
dire.
Hein. Oui.
Bon. Alors, que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui tentent de minimiser votre exploit ?
Non, en fait, polémique dont vous faites parler, c'est le...
Dis, c'est pas un tour du monde parce qu'elle n'a pas passé 2 fois l'équateur.
C'était l'histoire du record, en fait. Mais bon, pour ceux qui ont suivi le projet, ils savent que j'ai jamais parlé de record ni de chrono, puisque moi, mon projet, c'était un projet pour les enfants, avec une transmission de valeurs, et j'ai choisi volontairement de partir de l'île de la Réunion pour pas m'inscrire dans une compétition, pour pas aller contre le temps ni contre les autres, mais c'est un combat contre soi, une aventure intérieure. Et du coup, bon, je pense que en fait, la polémique est...
Alors, c'est d'autant plus inattendu qu'elle émane de l'ancien propriétaire de votre bateau, qui vous a aidé quand vous avez dématé par radio-téléphone, et qui est un ami, non ?
Oui, bah...
C'était...
On est toujours trahis par ses amis.
Mais bon, il a un peu dématé lui aussi. Hein.
C'est vrai que... Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai que la Terre est vraiment vaste pour qu'on ait la place à faire des records ou pas des records.
Alors,
faire les tours qu'on a envie de faire.
Est-ce que ce record est homologable ou pas ?
Non, c'est pas homologable. Pour être homologable, il faut respecter, payer, il faut machin partir de l'endroit. Bon, moi, c'était pas but. Je voulais justement pas partir de l'endroit. Je voulais dire aux gamins, notamment tous mes gamins de cité, vous n'êtes pas forcément toujours les premiers de la classe, mais c'est pas contre les autres qu'on vous demande de vous battre. C'est de réaliser vous, vos projets et vos rêves. Et peu importe le temps qu'on met, l'important, c'est d'arriver au but, surtout laisser personne vous dire que c'est impossible. Ouais. C'est le message que j'essaie de transmettre.
Bon, 5 mois toute seule sur un rafio, sur un océan qui est plus dur que ceux que vous aviez connus ?
Oui, parce que là, c'est les mers du Sud. Hein. Quand on regarde les fichiers météo, souvent, c'est associé à des couleurs. Et quand on voit les mers du Sud, c'est un peu rouge clignotant, genre danger, surtout jamais y aller. Et moi, j'ai eu une météo un peu pourrie du matin au soir et tous les jours.
Non, mais c'est vrai, on m'a recommandé, il m'a dit d'aller jamais sur l'océan Indien.
L'océan Indien, il faut faire attention aux flèches.
Traverser l'Atlantique à la rame, c'est hallucinant.
Ouais.
Quoi.
Ouais, oui. C'est fort, mais là, elle n'avait pas de rame. Hein.
Oui, non, mais je veux dire, elle a fait ça aussi.
Oui, je crois que ça nous avait plus frappé, la rame. Parce que ça avait duré combien de temps, la rame ?
L'Atlantique Nord, ça avait duré 4 mois et le Pacifique 3. Là, ça a été 5 quand même. 5 mois et c'était vraiment du non-stop. J'étais vraiment très très isolée et sur un bateau qui était quand même difficile à manœuvrer parce que c'est un bateau qui fait 26 mètres, qui pèse 41 tonnes. Cette voile immense, tu vois, c'est un bateau qui est. On met du temps quoi, pour
le
faire
Pacifique
les manœuvres.
Nord, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde non plus. Hein.
Dans le Pacifique, il n'y avait pas grand monde non plus dans le Pacifique. Mais alors là, dans les mers du Sud, vraiment avec les icebergs et puis vraiment 10-12 mètres de creux au Cap Horn à contre-courant, 70 nœuds de vent. C'est des endroits, sincèrement, je retourne. J'y retournerai pas, même avec vous. Hein,
vous avez vu des baleines ?
Oui. Alors des baleines, bien évidemment, des dauphins,
des requins,
des cachalots, des albatros. Ça, les fabuleux, parce qu'ils vont vraiment très très loin chercher cette liberté incroyable, cette pureté qu'il y a dans les mers du Sud. Alors, on galère vraiment pour aller jusqu'à eux, mais vraiment, il y a des petits instants d'éternité, il y a des petites secondes qui valent toute une existence. Quoi.
Et les lamantins, vous n'avez pas vu, non ?
Non, j'ai pas. Bon, il y avait quand même beaucoup de vagues. Faut imaginer que je. Bon, je voilà. Mais
parce
quand même,
que
sur la fin.
A vécu maritalement avec un lamantin pendant plusieurs voyages.
Mais ça s'est mal fini.
Et il avait été attaqué par un calmar géant, hein, c'est ça ?
Oui.
Oui, moi, j'ai pas vu le calmar géant. J'ai pas vu Moby Dick non plus. Mais par contre, j'avais un albatros que j'ai appelé Sacha qui m'a accompagné pas mal. Il a beaucoup fait rêver les
plusieurs
enfants.
Jours.
Oui, absolument.
Ah oui.
Les albatros sont toujours peut-être un peu intrigués par les bateaux.
Et alors, vous lui donniez quelque chose à manger ?
Jean-Pierre Coff confirmera sûrement, mais la nourriture en poudre, même les albatros, ils n'en veulent pas.
Les grosses têtes de Philippe Bouvard.
Le best-of de l'été sur RTL.
première citation de M. Scran, qui a dit « Quand j'étais môme, la chaîne météo, ça existait déjà, on appelait ça la fenêtre. »
Frédéric Dard.
Non. Alors, c'est quelqu'un qui a disparu, qui est un grand humoriste.
Audiard.
Non, mais Jean, c'est vrai, Yann. Qu'ils sont presque tous morts en dehors de vous. Hein.
En dehors de Philippe, oui.
Alors, je ne sais pas, Pierre Dac.
Moi, je vais
pas
à cette époque-là, de l'époque Audiard, tout ça, ou plus ancien.
Non, parce qu'il est mort il y a moins de 10 ans.
C'est Coluche. Des proches.
C'est Antonio.
Non.
Francis Blanche, non.
Mais il est français.
Français, oui, bien sûr.
Français.
Et un ami très cher en même temps.
Raymond DeVos.
Non, Raymond DeVos, il était belge. Hein.
Oui.
Il était un sur écrivain. Scène. Il était sur scène.
Oui.
Il était sur scène.
Francis Blanche.
Non.
Non.
Non, beaucoup plus récent. Francis Blanche, il est mort il y a longtemps.
Thierry Leluron.
Non, mais il est mort il y a longtemps.
Oui, il y a
aussi.
Ans, oui.
Je vous dis moins de 10 ans.
Oui, moins de 10 ans.
C'est pas Jean-Yann. Non, c'est.
Eh ben oui, c'est Jean-Yann. Bonne réponse de ma chamie. Et cette citation envoyée par Madame Royer-Donfleur qui a dit « Quand je suis sur une plage, les yeux fermés, je pense que je suis un énorme poulet et qu'il faut me griller de tous les côtés. »
Maïté ?
Non.
Mais on se rapproche.
On se rapproche.
C'est une femme.
C'est une femme.
C'est une cuisinière. C'est...
Oui, entre autres. Oui.
C'est pas la
c'est
mère
Jeanne
Poularde.
Moreau. Jeanne Moreau.
Non.
Non. Elle est cuisinière, elle n'en fait pas son métier.
C'est pas son métier, son activité principale.
Non.
Elle est actrice.
Oui, elle est artiste.
Ce ne serait pas Macha Merrill.
Non, non, c'est pas moi.
Tu aurais pu dire ça. Nous la connaissons bien.
Amanda Lear.
Non.
Laurence Boccolini. Marianne James.
Marianne James. Bonne réponse de Philippe Chevalier.
J'étais pas loin avec Laurence.
Non, c'était pas loin.
Il y avait 2-3 kilos près, quoi.
C'est ça, oui.
Est-ce qu'on peut garder l'esprit à l'endroit quand on fait le tour du monde à l'envers ?
C'est le secret. Essayer de garder, même en mer, de garder les pieds sur terre.
Qu'est-ce qui est plus difficile dans ce tour du monde à l'envers par rapport au tour du monde dans l'autre sens ?
Ben, c'est très simple, en fait. Quand on doit remonter contre le vent et contre le courant, on va donc zigzaguer. Donc on va en gros faire le double de distance que ce qui est nécessaire. Et en plus, on va avoir un bateau qui va beaucoup souffrir. Alors le marin et le bateau souffrent beaucoup puisqu'en effet, ils tapent dans les vagues sans arrêt. Donc c'est très très bruyant, très violent et ça demande beaucoup beaucoup de manœuvres.
Oui, mais là, vous êtes allé chercher la difficulté, hein ?
Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas un projet qui soit gagné d'avance et je voulais vraiment véhiculer le à contre-courant, le fait de qu'il n'y a pas qu'un seul autoroute, qu'il y a des chemins de traverse, qu'on peut se réaliser autrement et que les difficultés sont aussi un révélateur, qu'ils vont c'est formateur d'être confronté à des difficultés. Et les moments de bonheur sont d'autant plus intenses qu'on s'est un petit peu battu pour les obtenir.
J'ai lu quelque part que vous aviez pleuré. Assez souvent, même.
Je crois que j'ai jamais autant pleuré que pendant ce tour du monde à contre-courant, oui.
Bah, c'est une femme, hein.
Après tout.
Je voudrais vous y voir.
Prêtez-moi.
Et oui, ça sifflait le 21 mars dernier dans le grand studio de RTL. Les grosses têtes étaient Macha Merrill, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabie, Jean-Pierre Coff. Et Philippe Bouvard avait invité Maud Fontenoy.
Est-ce que les épreuves en solitaire sont dissuasives de la vie de couple ?
Ah ben, il faut trouver des gens courageux, oui.
Oui, parce qu'après, on prend l'habitude de la solitude, non ?
Non, c'est tout simplement difficile pour ceux qui restent, bien sûr. Mais quand on revient, on a tellement envie d'aimer la terre entière que non, ça pose pas de problème.
Oui, qui reste, c'est sûr de pas être trompé.
Ah, au moins, ça c'est sûr, je pars seule.
Ah, oui.
Et puis, il n'y a pas grand monde dans les mers, dans les mers du Sud. Hein.
Là, j'ai sous les yeux une photo où on dit, avec de jolies photos d'ailleurs, un gros titre selon lequel vous souhaitez maintenant avoir un enfant, très vite.
Oui, non, mais parce qu'en fait, ce que je vais expliquer par là, c'est que j'ai un peu fait le tour des aventures en solitaire et... Je crois que quand on s'est un peu découvert, qu'on revient bien dans ses baskets, on a envie de se consacrer aux autres. Donc cette aventure, elle permet aussi de se redresser.
Vaut mieux enlever ses baskets pour faire un enfant, non ?
Je prendrai ce conseil, donc.
Ça ne change rien, hein ?
Non.
Ce serait du signe du poisson ?
Mon rêve, désormais, avoir un bébé. Alors, est-ce que vous avez trouvé le papa de votre enfant ?
Oui.
Oui ?
Il est là !
Eh oui, c'est pour ça que Maud me tutoie. Ouais.
Faites gaffe, c'est dur de se placer là, tous là.
Il fait du vélo, lui.
Mais comme vous êtes bien renseigné,
oh bah oui,
c'est son métier. Assez balutin.
Il fait du vélo, mais en grand sportif. Hein.
Non, je crois que c'est vrai qu'il faut être avec quelqu'un qui comprenne l'aventure,
qui tienne la route,
attendre hein. pendant
c'est un champion
et qui tienne la route.
C'est un champion cycliste ?
Non, c'est un voyageur.
Est-ce que votre sponsor vous avait offert des shampoings compatibles avec l'eau de mer ?
Oh oui, j'ai eu de la chance avec mon partenaire L'Oréal d'avoir beaucoup de produits à bord et ça tombe bien parce que je suis très fille autant sur terre que sur mer, donc on s'entendait bien tous les deux.
Vous, sachant que vous rencontrez pas grand monde, hein, enfin de temps en temps il y a quelques marins français, mais c'est pas tous les jours, vous prenez soin quand même de vous comme si vous étiez sur la terre ferme.
J'essaie de garder en fait mon identité de fille. C'est vrai que je fais rire tout le monde parce que je m'épile les jambes en mer, que je me mets du déodorant, que je me coiffe, que je me mets de la crème anti-rides.
Bah vous avez ça, que ça à faire.
Ah bah mais... non, elle a pas que ça à faire.
Elle a rien d'autre à foutre.
Bah non. Forcément.
Oh non.
Non, et c'est vrai que je prends ce temps-là dans les moments où c'est très très dur, où j'ai vraiment très mal, très peur, où tu ressembles vraiment à un animal puisque tu peux pas te laver, puisque t'es trempé du matin au soir, puisque t'es dans des vagues un peu colossales. Et là, pour moi, pour garder le moral, c'était justement prendre un petit peu soin de moi.
Et on va plus vite parce que ça, c'est un truc de cycliste. Quand on s'épile, il paraît que ça améliore l'aérodynamisme.
Hein, Jean-Pierre, il y a moins de prise au vent.
Tout à fait. Mais il s'épile pas les jambes, Jean-Pierre, tu t'épiles les jambes.
Êtes-vous fier d'avoir été escorté par la Marine nationale ?
Ah, c'est une magnifique rencontre. C'est vrai que j'ai rencontré personne pendant 4 mois et demi.
C'était fortuit, vraiment, ça ?
Absolument.
Ils passaient dans le coin.
Ils arrivaient, en fait, de Malaisie.
Ils disent, tiens, une petite blonde, et ils s'arrêtent.
Ils arrivaient de Jakarta, ils allaient sur l'île de la Réunion. Et j'étais exactement sur leur chemin, c'était la Jeanne d'Arc. Et donc,
quel navire, le grand navire école.
Fabuleux.
Ah oui.
C'était vraiment.
Combien il y avait de marins là ?
Il y avait quasi 700 marins en uniforme.
700 marins, ouais.
Ah oui.
Ça en fait des pompons à toucher.
Non, ils se sont pas approchés. Ils se sont pas approchés. En fait, ils avaient préparé une banderole et j'avais beau supplier parce qu'ils avaient apparemment préparé des fondants au chocolat pour moi. Et non, les fondants au chocolat sont restés à bord de la Jeanne. Ils les ont mangés à ma santé, mais ils sont pas venus à bord de L'Oréal.
Et vous n'êtes pas monté sur leur
bateau ? Non, il y avait trop de mer en fait, il y avait trop de vagues et on n'a pas pu mettre le canot à l'eau.
Il faut pouvoir passer d'un bateau à l'autre. Hein.
En plus,
surtout qu'il y a des différences de niveau. Hein.
Ah oui, j'étais vraiment petite à côté d'eux.
Mais ils avaient mis une banderole sur le bateau ?
Non, ils ont fait ça bien, c'était vraiment super touchant parce que j'avais déjà vu personne et puis là d'un seul coup j'avais des humains qui venaient à ma rencontre et qui étaient des humains porteurs de tendresse, de messages...
Et des compatriotes de surcroît.
Des Français, une banderole...
Qu'est-ce qu'ils avaient mis sur la banderole ?
Bravo Maud, à bientôt, parce que comme ils allaient à la Réunion eux aussi, ils m'ont attendu là-bas. C'est vrai que c'était vachement sympa. Vraiment, vraiment un grand, grand moment de cette rencontre.
Vous les avez retrouvés à terre.
Et du coup, quand je suis arrivée, ils sont venus à ma rencontre.
Ils sont tous venus vous inviter à danser, non ?
Non, parce qu'ils bossaient, en fait. Ils avaient un peu quelques soucis à bord du bateau. Mais j'ai pu avoir l'honneur de manger avec le pacha du bord et c'était un grand moment.
Les grosses têtes de Philippe Bouvard.
Le best-of de l'été sur RTL.
La nourriture, alors comment ça se passe ? Il n'y a pas que de la nourriture en poudre.
Non, au début, en fait, j'avais quelques boîtes. J'avais quelques boîtes de conserve. Et puis après, il n'y avait plus que du lyophilisé. Donc j'ai vraiment j'ai rêvé d'une bonne mousse au chocolat ou voire d'une bonne salade de fruits,
oui, avec du surimi.
Framboise. Ah non, pas de surimi, mais des sushis, ok. Mais,
On est deux.
Ah oui, non, pas le surimi, ça, non.
Il y a beaucoup de rêves, mais il n'y a pas seulement des rêves... de repas, il y a des rêves d'affection, il y a des rêves de plancher des vaches. Hein.
Il y a plus de rêves, voilà, de besoin de tendresse, parce qu'on a, un besoin de regard, de sourire, de contact. On se sent vraiment, on a un vide au fond de soi, on ne se rend pas compte.
Vous auriez dû m'appeler.
Sans arrêt entouré.
Et votre pilote automatique, il n'était pas tendre ?
Non, j'étais vraiment toute seule. C'est pour ça que les marins, ça m'a fait plaisir de les voir. Et c'est pour ça que ce retour sur Terre, c'est un moment fabuleux de tous les instants.
C'est un supplice incroyable.
Vous avez eu peur, par moment ? Vous avez eu peur ?
Je crois que j'ai eu peur pendant 151 jours, j'ai douté pendant 151 jours, j'ai appris à me servir de cette peur, à la ranger d'un côté pour m'en servir, pour être plus prudente, plus disciplinée. Pour moi, j'essayais de m'en servir comme un atout, parce qu'il faut apprendre à gérer justement ce stress, on découvre une force à l'intérieur de soi. Et puis on apprend à se connaître beaucoup mieux.
Alors, cette question de cuisine, nous, on la pose parce qu'on est un peu gueulard, on est un peu porté sur la table, mais en fait, c'est vrai qu'on a autre chose à penser quand on est responsable d'un bateau et livré à une telle aventure. Mais je n'avais pas pu m'empêcher de poser cette même question à notre ami Olivier de Kersauzon quand il était revenu de sa grande course transatlantique.
On a 7 mètres d'hôtel. Un livreur de pizza
qui passe avec des gants blancs et on appelle Allo Pizza, tu vois. Alors t'es en tête de main, en train de travailler, t'as Allo Pizza qui monte avec sa mobilette le long du mât. Mange des produits francs dans le jardin. Tu t'arranges avec le bateau, tu passes très près des champs de salade et hop, t'arraches, tu vois. Après, tu tires avec le bateau vers un champ de carottes et hop, t'arraches des carottes. Tu vois. Après, t'as un champ de poulet et hop, t'arraches des poulets, tu vois. Et alors, quand on arrive dans les champs de nouilles, on s'arrange pour laisser traîner un grand filet pour que toutes les nouilles tombent dans le... Donc, on passe notre temps à pêcher, putain. On pêche pas, on met des petites annonces. Tu vois. Cherche boisson pour voyage à Rio, alors. Et quand on s'endort, qu'est-ce qui vient nous border? Mickey avant de nous mettre un petit baiser sur le front.
En fait, ce qui nous avait le plus étonné, c'est qu'il nous avait dit que ben, il mangeait jamais de poisson pendant ses courses. Hein.
C'est finalement le rigolo, parce que en fait, on pêche pas. Certains le font peut-être, mais dans les mers du Sud, déjà, c'est pas très très évident de pêcher. En général, on va en plus assez vite. Et puis, il y a le fait que tuer un poisson et ça pue après dans le bateau, et puis ça met du sang partout. Et puis, bon, après, moi, quand j'étais dans l'océan Indien, j'avais retrouvé des températures un petit peu plus chaudes, donc il y avait beaucoup de dorades coryphènes qui venaient de se mettre à l'ombre du bateau. Et elles étaient tellement belles, tellement brillantes, tellement sympathiques, et j'étais tellement avide de rencontres que je me voyais pas mettre une ligne à l'eau. Donc, j'ai rêvé de sushi pendant 5 mois.
Maud Fontenoy avait amarré dans le grand studio de RTL le 21 mars dernier, autour de Philippe Bouvard également, Macha Merrill, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabille et Jean-Pierre Coff.
Quand on navigue comme vous, est-ce qu'on comprend mieux le sens de l'expression « passer un cap » ?
Ah, on comprend mieux ce que ça peut être que de se dépasser dans des moments difficiles.
Non, parce que le cap, c'est finalement les moments les plus dangereux de la course. Hein.
C'est pas forcément le plus difficile, mais c'est des moments précis qui permettent de...
Quel est le plus dangereux ? C'est le Cap Horn ?
Le Cap Horn, il est super stressant parce qu'il est très 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 sud, parce qu'on a vraiment l'impression de descendre un petit peu aux enfers. On descend dans les 50e hurlant. À contre-courant, on tape les vagues vraiment de face et c'est des grosses 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 vagues. Il y a les icebergs, il fait très très froid. C'est vraiment le pays de l'ombre, comme le dit Titouan Lamazou, donc un pays en noir et blanc. Donc c'est des moments où tu es très angoissé. Et tu sais qu'il faut faire attention et que le Cap Horn, c'est pas une journée qu'on passe, ça peut peut-être prendre 15 jours, voire 3 semaines.
Ah oui, 15 jours, 3 semaines.
Oh,
oui.
C'est un passage difficile.
Ça vous embouche un coin, les garçons, là, non ?
15 jours, 3 semaines, à se demander, c'est quelle distance, le Cap Horn ?
En fait, le problème, il est qu'il y a une côte. Donc déjà, quand tu tires des bords au près, là, tu vas devoir tirer un grand, grand bord vers le sud parce que tu ne peux plus tirer un bord pour remonter. Après, il y a les courants qui longent la côte de l'Amérique et qui va vous rentraîner de l'autre côté. Donc des fois, tu zigzagues et en plus, tu recules. Donc ça met un sacré bout de dent et on considère qu'on a passé le cap. Et en général, on le fait vraiment, vraiment 10-15 jours après. Et puis après, comme tu l'as passé, en fait, tu continues les galères puisque là, c'est le maximum d'iceberg, c'est dans le passant Pacifique.
C'est un enjeu, ça.
Donc il faut... le Pacifique, c'est dur.
Et l'eau douce ?
J'avais emporté 300 litres d'eau. Ça a été à passer, en fait. Et puis j'ai dû recueillir de l'eau de pluie. Et puis bon, voilà. Donc sur la fin, j'ai vraiment rêvé d'une bonne bouteille d'eau.
Il y a une machine pour la désalinisation. Ça marche bien, ça ?
Sur mon bateau, en fait, c'était pas prévu, mais j'avais pris celui de mon petit bateau à rame avant de partir, qui n'avait pas été installé, donc je savais pas trop s'ils allaient fonctionner. Mais c'est vrai que dans l'Atlantique Nord, il était tombé en panne, le désalinisateur. Et j'avais dû, à un moment donné, avec les conseils d'Alain Bombard, boire de l'eau de mer, boire l'urine. Enfin, et là, je voulais vraiment que ça n'arrive plus, quoi. Et le problème, c'est que les jerrycans d'eau, ils ont été explosés pendant la tempête, donc j'ai perdu beaucoup d'eau douce. Et il a dû falloir régler 2-3 soucis à la fin, quoi.
Et le sommet ?
sommeil, ça se passe comment? Je veux dire, c'est, vous avez quelque chose qui vous avertit s'il y a un obstacle? Vous avez un radar qui est sonore, non?
Non, alors c'est le problème. C'est-à-dire que le sommeil, à la fois, il faut s'endormir très très vite. Et on dort par tranche d'une demi-heure, une heure. Donc il faut tout de suite récupérer. On tombe dans le sommeil paradoxal d'un seul coup et on oublie complètement le rêve. Donc on ne rêve pas pendant 5 mois.
On est toujours à la merci d'un gros bateau qui ne vous voit pas. Hein.
Cargo, porte-container, tout ce qui traîne parfois dans l'eau, parce qu'on a souvent vu des containers traîner dans l'eau. Et puis les icebergs, bien sûr. Donc, alors on se réveille sans arrêt, on va surveiller le vent, la voile, la manœuvre, et on met son réveil parce que on a peur des fois.
Ça doit être terrible. Hein. Moi qui dors par tranche de 10 heures, je ne sais pas comment vous faites. Parce que...
Les grosses têtes de Philippe Bouvard.
Le best-of de l'été.
Et le 21 mars, dernier, l'invité d'honneur, Maud Fontenoy.
Alors, une question de Madame Granville. Quel rituel précède toujours l'accouplement chez les goélands?
Mais ils s'envolent.
Ils vont au bistrot, arranger ça.
Ils font ça en l'air, non?
Non, je ne vous parle pas de la façon dont l'accouplement se déroule. C'est l'affaire des goélands, on serait indiscret de s'en mêler.
Ils retournent au nid avec leur maman.
Une petite toilette?
Non.
Il y en a qui prend un poisson et qui le donne à l'autre.
Ils vont se confesser.
Alors voilà. Oui. Le mâle offre un poisson à la femelle. Oui. Je vois que monsieur sait vivre. Bonne réponse de Philippe Chevalier.
Il donne un peu d'énergie, un peu de force.
Je lui offre mon petit poisson, moi aussi.
Vous en avez croisé, des goélands?
Des albatros, beaucoup. Mais j'ai jamais vu aucun rituel de poisson. Non.
Ils font pas ça comme ça quand il y a du monde.
Oui, voilà.
Ils sont seuls.
Question de M. Skran. Quelle était la particularité des drakkars, des vikings?
Il n'y avait pas de moteur.
Ah bah c'était à la rame, ça.
Il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de poupe, il n'y avait pas de devant et pas d'arrière, pas de poupe et pas de proue.
Ah oui, oui.
Tu t'y connais en bateau?
Ah, il n'a pas fait que du droit, hein.
Ah non, c'est normal, je suis de Saint-Malo, alors.
Et alors, les enfants, là-dedans, vous allez les retrouver?
Oui, oui, il y a beaucoup, 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 beaucoup de classes qui ont suivi. Il y en avait énormément à l'île de la Réunion. Ils ont travaillé sur plein, plein de thèmes. Je crois qu'ils se sont bien amusés. Les professeurs sont vraiment exaltés. Et je vais donc les retrouver dans toutes les classes, partout en France, et notamment dans ma ville, à Meaux. Il y a une petite classe de cité qui a suivi... des petits bouts de CM2 qui, eux, sont super, super fans.
Mais vous irez les retrouver dans des ports?
Le projet cet été, c'est de, en juillet-août, donc de ramener mon bateau pour le regret, donc de mettre un nouveau mât, de nouvelles voiles, lui rendre un peu sa noblesse, et puis faire le Tour de France. Alors, un Tour de France encore un peu à contre-courant, parce que je vais partir du sud pour remonter vers le nord.
Ça sera moins dangereux.
Ça sera moins dangereux, et ça sera un but pour moi de parler de l'écologie, et puis de faire naviguer tous ces enfants qui ont vu le bateau par des images, et qui aimeraient le visiter, et puis partir en mer un petit peu.
Vous avez eu peur quand vous avez su que le cyclone se dirigeait vers la Réunion? Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'échappatoire. Si vous vous trouvez dans des vents à 200 à l'heure, c'est...
Exactement, et on m'annonçait des vents à 135 nœuds, le double en kilomètre-heure. Et moi, mon bateau, il était avec son mât de fortune, donc j'avançais à 3-4 nœuds. Autant dire que pour fuir, c'était pas franchement gagné d'avance. Et donc là, j'ai vraiment perdu un temps monstre, parce que je suis remontée nord, en montant vraiment tout droit, sans avancer du tout dans la bonne direction. Et j'ai prié pour mes amis à La Réunion, parce qu'il a quand même fait des dégâts, et les saisons cycloniques sont de plus en plus fortes.
Et vous aviez un routeur?
Oui, j'avais un météorologue qui me donnait des infos tous les deux jours.
En vous disant, va à gauche, va à droite.
Non, en m'envoyant les fichiers météo. Donc on regardait les fichiers et on voyait bien il y avait les masses nuageuses et on voyait bien qu'il fallait les contourner.
Vous aviez un fax?
J'avais pas de fax à bord du bateau.
Un ordinateur.
J'avais accès à des mails, oui.
Des emails, oui.
Quand on est toute seule comme ça et qu'on réfléchit, combien de temps faut-il pour faire le tour de soi-même?
Je crois que 5 mois suffit pas forcément. Néanmoins, ça apporte beaucoup. C'est pour ça que je suis partie.
Vous preniez des notes?
Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de notes. J'espère que je vous ferai un bon livre.
Quand est-ce qu'il va paraître?
Pour la fin de l'année, j'ai envie de faire un livre qui soit vraiment sur les questions de fond. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une expérience comme ça pendant 5 mois, seul sur un bateau? Pourquoi est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on va y chercher? Et avec quoi on revient? Donc je vais essayer de m'isoler vraiment pour écrire.
On pense à Dieu quand ça va mal?
On pense à tout le monde, on pense aux siens, on pense au grand univers, on prie, oui, quand même pas mal, parce qu'on se dit faut vraiment, vraiment que je m'en sorte. Moi, je me rattachais vraiment à la vie par cette envie de faire un bébé. Et je pensais au futur bébé, je me disais, tu vois, t'auras une maman forte, t'auras une maman qui repartira plus parce qu'elle aura trouvé les réponses à ses questions.
Ah bah oui.
Est-ce au bébé ou au monsieur qui allait vous le faire?
Je pensais aux deux, mais c'était ce fil qui me retenait en fait à la terre. C'était tellement fort en moi que je me disais, je peux pas disparaître en mer parce qu'il y a ça qui existe tellement dans mon cœur que.
Enfin, c'est pas le meilleur moyen de faire un bébé que de s'en aller toute seule sur l'océan. Hein.
Non, là, c'est certain qu'il faut rentrer. Et c'est pour ça que je suis là.
Le 21 mars, les grosses têtes s'appelaient Macha Meryl, Philippe Chevalier, Jean Amadou, Bernard Mabie, Jean-Pierre Coff et sur RTL, Philippe Bouvard avait aussi invité Maud Fontenoy.
J'ai vu quelque part que vous aviez embrassé votre bateau.
Oui, beaucoup. Déjà, j'étais triste de le quitter et puis il y a vraiment un lien fort avec son bateau. Et ouais, je suis retournée le voir après avant de repartir, parce qu'il est tout seul à La Réunion en ce moment. J'avais vraiment envie de le remercier parce que c'est lui qui m'a protégée.
Vous l'avez embrassé sur la coque, oui, bien sûr.
Voilà.
Oui. Comment il va revenir le bateau en métropole?
Normalement, si tout va bien et si on trouve, on devrait le mettre sur un cargo et le ramener à Marseille où il va aller au chantier pour recevoir son nouveau mât.
En arrivant à La Réunion, qu'est-ce que vous avez fait en premier? Et qu'est-ce que vous avez mangé après la douche, je présume?
Ah voilà, oui, j'ai serré maman dans mes bras, j'ai pris une douche. Et qu'est-ce que j'ai mangé? Ben en fait, je rêvais de manger des framboises. Sauf qu'à l'île de La Réunion, ils ont eu bouffer le tour de l'île des fois, il n'y a pas de framboises à La Réunion. Et du coup, ils m'ont fait de la langouste. Et donc voilà, j'ai mangé, la première chose que j'ai mangée, c'est de la langouste. Et c'était quand même luxe. Non, très 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 sympa.
Question de Monsieur Lucas, pourquoi les phares des ports émettent-ils des signaux lumineux intermittents?
Parce qu'ils ont chacun leur signe.
C'est un langage. Selon le nombre d'éclats, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc c'est ou des scintillements, ou des éclats, ou des occultations. Et après, il y a des codes couleurs. Donc c'est pour permettre de repérer. C'est un code qui permet de savoir exactement où on est. Selon le phare, on peut le repérer en fait sur la carte.
C'est
pour qu'on le voit de plus loin.
Attendez, ça pourrait être fixe, or c'est une lumière intermittente.
Pour la pupille, pour la rétine, parce qu'on ne peut pas absorber des rayons en continu.
Ils peuvent pas être fixes.
Ils sont intermittents parce qu'ils veulent avoir leurs acédiques. Et donc.
Ça tourne un phare de port. C'est comme le phare de la Tour Eiffel, quoi.
Oui,
mais parce qu'ils sont branchés sur des prismes.
Non, mais la lumière elle-même, en dehors de l'optique qui tourne, la lumière elle-même se manifeste de façon intermittente.
Parce que sinon, on pourrait prendre cette lumière pour un phénomène météorologique.
Oui, ou
un orage.
Pour une étoile.
D'accord.
Eh bien, c'est une bonne réponse de Philippe Chevalier et de Jean Amadou. Ah, ils en savent des choses. Vous devriez les voir plus souvent, Maud, vous savez.
Quand on a su que c'était Maud qui venait, on a travaillé.
Vous avez fait un film en même temps?
Voilà, je me suis fait un peu violence pour filmer un petit peu. J'aime pas trop la caméra, mais j'ai fait un effort. Donc, normalement, il devrait y avoir un beau film avec une relation entre ce que les enfants ont pu tirer de l'expérience et ce que moi, je vivais à bord du bateau.
On voit les creux de 12 mètres?
Le problème, c'est que quand il y a les creux de 12 mètres, on sort pas sa caméra, je vais te dire. C'est pas franchement à ça qu'on pense.
Non.
Par contre, on voit la petite tortue. Et voilà, c'est un peu un huis clos.
12 mètres, ça représente quoi? Une maison de 3 étages?
3 étages,
4
étages.
Oui. Non, 12 mètres, c'est vraiment une falaise qui vous tombe dessus. Donc quand on est vraiment en bas du creux, ça fait drôlement haut et on n'ose même plus regarder à travers les hublots.
Ça fait 1200 cm. Hein.
Oui.
Oh là là là. Si ça vous va mieux comme ça.
Ça fait 120 décimètres.
C'est en gros 6 fois votre hauteur. Faites en gros 1m50, donc vous voyez, si vous dévisez, vous voyez où ça mène.
Oui.
Mettez 6 bouvards et vous avez 12 mètres.
Alors, je voudrais revenir à la vie à bord, la vie quotidienne à bord. Alors, on fait ce que la navigation exige, bien sûr. Bon, ça prend quand même pas mal d'heures dans la journée, ça.
Surtout quand on vire de bord toutes les 2 heures, oui.
On a des contacts avec l'extérieur. On fait, non pas de cuisine, mais enfin, on se bricole des repas.
Absolument, oui.
Vous l'avez dit tout à l'heure, on s'épile les jambes, on se fait
belle.
Pas
tous les jours quand même, parce que dans les 40e, tu vois, quand la température de l'eau est de 3 degrés et qu'il faut se sortir sur le pont à moins de 10 pour se laver, on s'épile pas les jambes tous les jours quand même. Hein.
On tricote un peu, non?
Ah, ça, j'y ai pas pensé.
Je cherche des trucs de femme.
La lecture,
la broderie. Mais vous mangez chaud ou froid?
Chaud, chaud. Il faisait tellement froid, j'ai pas de chauffage.
Et quel est votre moyen de chauffage pour la nourriture?
Non, j'ai juste un petit but à gaz. Mais pas de chauffage dans mon bateau.
Donc il fait moins 10 dans le bateau.
Exactement.
Ben là, vous faites du surgelé. Donc
il fait super froid. Ah, mais tout le temps, j'étais gelé, quoi. J'étais tout le temps.
Quelle horreur. Et vous mangez du surimi?
Mais on tombe pas malade?
Non, pas de surimi.
Jamais de surimi.
Jamais de surimi.
Alors ça, c'est un.
Voilà, Jean-Pierre, jamais de surimi. Je vois pas pourquoi tu défends le surimi.
Des médicaments, quand même, pour lutter contre le froid.
Est-ce que j'ai le droit de gifler ou de claquer?
Quelques vitamines en plus que j'avais un petit peu au début. Les médicaments, c'est vrai que j'avais un petit hôpital à bord. J'étais censée pouvoir me recoudre, m'arracher les dents, me soigner. Tout était prévu. J'avais fait les stages de survie, mais je m'en suis pas servie. Hein.
Alors, pardon de vous poser cette question un peu aussi. À la fois indiscrète et triviale. Il y a des commodités sur ce type de bateau?
On fait comme les poissons.
Ah oui.
Ah bon.
Ah oui, on se met au bastingage.
Ah oui.
Et on se lave avec un seau d'eau de mer sur la tête pendant 5 mois avec de l'eau froide.
Oh là 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 là.
Froide. C'est vous dire à quel point c'est le bonheur de prendre une douche.
Sexy, là, sachez que sur le bateau de Kersauzon, il y avait des commodités et Jean-Marie Bigard nous avait expliqué ici comment ça fonctionnait.
Ouais, c'est génial, t'as l'impression d'être dans un placard à balai pour faire caca, alors là je t'en parle pas, parce que comme monsieur, pas question d'avoir un moteur parce que c'est trop lourd, donc tu fais caca, et là je te garantis, tu vois ce que t'as fait, hein, parce que ça reste au fond, et ensuite tu prends un tuyau à côté, tu pompes de l'eau de mer avec ton pied, et là tu le remplis, la consigne donnée par le capitaine c'est qu'il faut remplir 3 fois, pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde dans les tuyaux, qu'elle remonte pas ou que ça bouge pas la pompe, parce que si tu bouges la pompe, c'est toi qui la démonte. C'est toi qui mets les mains dans la merde. Parce qu'il n'y a plus de vedette, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que le capitaine, qui est Dieu, près Dieu. Donc tu fais attention et puis tu pompes, comme les Shaddock et tout. Alors tu dis, tout, moi c'est simple, j'ai fait une fois caca et après j'ai attendu Brest. Parce que j'ai dit non, c'est trop pénible de pédaler comme ça dans le truc pour rincer les chiottes. Et il y a juste un rideau, donc tout le monde entend. Parce que des fois t'as un bout de crottin, un gaz, un autre bout de crottin. Et là, t'as du mal à gérer ce gaz-là. Parce que t'es en train de pousser. Tu peux pas dire, hop, je ralentis, j'en fais un, qui finit en pointe. Après, je fais juste un petit pfff pour pas que ça s'entende et tout. Non, la bulle qui est entre deux crottins, ça claque comme le tonnerre. Et t'as tout l'équipage qui est là et qui entend. Et ils font, bravo! Oh, non, il y a le temps qui se gâte. Donc voilà ce que j'ai vécu sur Geronimo.
Il manque aucun détail, c'est d'un grand réalisme. Hein.
Oui, j'étais un peu plus poétique dans mes journaux de bord.
Hein. Oui, j'essayais. Non, puis là, bon, il y a du monde autour, vous.
Je suis seule.
Non, puis là-bas, la nourriture de base, c'est quand même pas des haricots ou des artichauts, c'est pas du produit...
Des pâtes, du riz.
Des sucres lents.
Enfin, on respire sur un bateau quand même un air très iodé. Hein. C'est bon pour la santé, ça.
Vous voulez dire que, contrairement à ce qui se passe chez vous, les vents sont surtout extérieurs, là.
C'était le 21 mars. Philippe Bouvard recevait en invité d'honneur Maud Fontenoy sur RTL.
Vous aviez des bouquins pour lire à bord ?
Des livres, c'était super important pour moi. C'était vraiment mon bien le plus précieux, me sortir un peu de mon environnement. Et puis mon iPod pour écouter un petit peu de musique.
Mais quel livre, par exemple ?
Les pensées soi-même de Marc Aurèle, ça m'accompagne toujours pendant mes différents tours. C'est mon livre, parce que le stoïcisme, on en a besoin pendant ces longs jours de solitude.
Pêcheur d'Islande aussi, non?
Et sinon, pas mal de bouquins, pas trop de bouquins de bricolage. Mais
celui d'Hélène MacArthur, non?
Oui, il était à bord, des bouquins d'Orsena, tout type de livres, à la fois des romans et...
Autissier, Artaud...
Des livres qui pouvaient me sortir un peu de mon environnement, donc des livres d'aventure, des livres de mer, mais aussi
Trois hommes sur un bateau, par exemple.
Pas que des livres de bateaux.
20 000 lieues sous les mers, non, peut-être pas quand même.
Livres de désert.
La question de M. Guillaume de Saint-Cyr, alors là, vous allez répondre fabuleusement.
Attention.
Qu'appelle-t-on la peinture anti-fouling?
C'est la peinture qu'on met sur la coque du bateau, enfin en dessous, pour pas que les anatifs, c'est-à-dire les petits coquillages, viennent se coller.
Eh bien, c'est une bonne réponse de Maud Fontenoy. Et la question de M. Vérin, pour quelle raison une sonnerie retentit-elle tous les jours à 19h30 à bord des sous-marins français?
C'est l'heure de la soupe?
C'est pour marquer quelque chose, une bataille.
Célébrer une bataille.
le passage de la nuit au jour. Du jour à la nuit, ben oui, quand vous êtes à bord d'un sous-marin.
On ne sait pas quand c'est la nuit.
Quelle lumière qui change.
Encore une bonne réponse de votre conjoint. Vous êtes monté à bord d'un sous-marin ?
Non, mais comme je suis en partenariat avec la Marine nationale, j'aimerais bien.
Oui.
Et puis ça se passe comme ça dans tous les bateaux. C'est vrai que quand on monte à bord de la Jeanne d'Arc ou à bord du porte-avions Charles de Gaulle, on n'a pas l'impression d'être dans un bateau. Et c'est vrai qu'on n'a plus du tout de notion de l'extérieur.
Surtout sur Charles de Gaulle. Sur le Charles de Gaulle.
On a plutôt l'impression d'être
un quai. Il ne sort jamais du port de Toulon, de toute façon. Donc.
Question de M. Follenfant. Qu'est-ce qui est toujours séparé par une durée de 12 heures et 25 minutes ?
Le quart.
Les marées ?
Les marées. Bonne réponse de Maud Fontenoy.
Attends, c'est tout, mais c'est son sujet.
Non, mais c'est des questions cadeaux.
Vous n'avez rien sur l'aviation.
Non, mais attendez, je voulais vérifier que c'était bien elle.
Ah, vous aviez un doute.
C'était le maquillage, ça l'a trompé.
Question de Monsieur Camolin. Comment Louis XIV faisait-il vieillir son vin ?
Sur les bateaux, sur les galères.
Dans l'eau de mer.
Il y a Henri Maire à Arbois, il fait ça, il met du vin à bord de bateau, et il tourne, il fait le tour du monde, et le vin revient, et il a pris quelques années.
C'est à cause du décalage horaire, c'est ça ?
Non, c'est à cause du
ballottement. Quelle belle accroche pour mon cadeau pour Philippe. Enfin, Philippe, quand même, je peux me permettre d'interrompre deux secondes l'émission pour vous apporter ce que j'ai apporté avec moi et qui a fait. Alors, ce n'est pas un très très bon Bordeaux. C'est une bouteille de rhum arrangé et préparé par mes amis réunionnais à l'ananas qui a fait le tour du monde à contre-courant pour vous.
Oh là là !
Ouais.
J'avais eu déjà, la dernière fois, quand elle est revenue de sa traversée à la rame, j'avais eu droit à un superbe collier de coquillages.
De Polynésie, la traversée du Pacifique. Ah,
et nous, cher Maud, nous sentons le pâté.
Mais non, mais
j'ai pris une grande bouteille.
Philippe.
Donc elle a été bien secouée. Alors, le Bordeaux, c'est peut-être bon de le faire voyager en mer. Le rhum, je ne sais pas, à vous de me dire. Voilà, du rhum arrangé à l'ananas. Oui.
Ah, j'ai jamais vu du rhum comme ça. Hein.
Voilà, et je pense qu'il doit être, très goûtu, comme dirait mon petit frère. Oui.
Donc. Merci. Alors, je vois dans la presse régionale que les chalutiers, les bateaux de pêche, pour réduire leur consommation, et puis parce que c'est plus écologique, vont naviguer un peu à la voile.
Ben, ça serait bien.
Ils vont mettre une voile qui économisera 20% du carburant.
On peut tirer un filet.
Moins de filets aussi, peut-être.
Oui,
moins
c'est ça, oui.
Parce que quand on voit la pêche à la palangue avec
des voiles métalliques, déjà les grands...
Des kilomètres et des kilomètres de fil avec des hameçons, et c'est pour ça que les albatros disparaissent, puisqu'ils s'attrapent dans ces hameçons-là. Il y a des centaines de milliers d'albatros qui disparaissent chaque année, parce que c'est pêche un peu industrielle.
Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est le best-of de l'été sur RTL.
Jean-Louis Etienne était en partance pour les avant-postes polaires. Il est certainement aujourd'hui le spécialiste qui parle du froid avec le plus de chaleur. Apparemment, le réchauffement climatique qui assure t-on menace de faire fondre la banquise n'est pas prêt de le faire renoncer à son habitude de mesurer avec précision l'épaisseur des couches de glace. Curieux explorateur, à la fois capable de vivre à la dure durant des semaines et à son retour de se comporter comme un bon vivant. À l'entendre, il prend moins de risques quand il survole un pôle en ballon dirigeable que quand il roule en scooter à Paris. Il regrette que Nicolas Hulot n'ait pas été candidat à la présidentielle, mais se félicite d'être le plus grand spécialiste du comportement des manchots. Asseyez-vous, docteur. Jean-Louis Etienne, le fonds de commerce d'un explorateur polaire n'est-il pas menacé par le réchauffement climatique ?
Ben dans le Nord, vous avez raison, l'Arctique est en train de fondre. La banquise qui recouvre le pôle Nord s'amenuise petit à petit, en surface, on le voit du ciel, et puis en épaisseur aussi.
Où travaillerez-vous le jour où il n'y aura plus de banquise ?
J'espère que je serai ailleurs que sur Terre. Et on annonce effectivement une fonte progressive, mais ça ne sera pas de mon vivant.
C'est très lent,
mais on parle quand même que la banquise devrait disparaître dans 50-60 ans.
C'est
très peu.
Au pôle Nord, hein. Au pôle Nord, l'été uniquement. Parce que l'hiver, c'est la nuit totale, il fait froid, elle revient.
Oui, on peut dire, comme on disait, après moi le déluge, après moi le réchauffement. Que ça commence. Hein.
Ben, le réchauffement est déjà commencé. Ouais. Et je pense qu'effectivement, là, il faut qu'on s'y mette tous pour essayer de calmer l'ardeur de la température qui commence à monter sérieusement. Et cette banquise disparaît, c'est une réalité. Quoi.
Exercez-vous encore parfois la médecine ?
Non, alors j'aime bien dire que la médecine fait des progrès, mais pas moi, si vous voulez. Ça fait, depuis mes dernières consultations, 1986... Et là, j'ai changé d'orientation, j'ai pris l'exploration
polaire. Mais est-ce que dans un cas d'urgence, on est médecin comme on est prêtre pour l'éternité, non ?
Oui, et si vous voulez, la médecine de fond, c'est un peu comme l'apprentissage du vélo. Une fois qu'on a eu la culture, c'est quelque chose qui vous reste. On en a les réflexes, on n'a pas les dernières trouvailles, mais on a quand même une culture.
Ouais. Il soigne oui, la planète maintenant. Vous soignez la planète.
Je soigne la planète,
ouais,
vous avez
sauf
raison.
Que la différence entre la médecine et le cyclisme, ce n'est pas les mêmes boyaux. Hein.
D'autres invités cet après-midi dans les meilleurs moments de la saison 2006-2007 des Grosses Têtes. C'était le 1er février dernier. Il y avait Philippe Bouvard, Macha Meryl, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jacques Balutin et l'invité d'honneur Jean-Louis Etienne.
La pollution, c'est devenu la tarte à la crème. Hein. On en
pas
use,
très comestible,
on en abuse.
Quand même,
non. Ouais. Non, non, mais enfin, tout pollue, y compris d'ailleurs l'être humain, même quand il ne recourt pas au progrès. Un piéton qui se déplace la bouche ouverte, par exemple, il pollue la ville, non ?
Oui, s'il pète, il émane du méthane. Et le méthane est un agent qui réchauffe l'atmosphère.
De l'effet de serre, hein ?
Absolument.
Ah oui, Jean-Pierre Coff, d'ailleurs, est fortement mouillé dans ce phénomène.
Bon, mouillé,
hein.
C'est le mot.
Où en est l'EEDD ? Vous vous souvenez, l'EEDD ?
Ah oui. Oui, l'éducation, l'environnement pour le développement durable. Ben voyez, c'est quand même l'illustration que la réglementation est de temps en temps en retard. L'EDD, l'éducation à l'environnement, elle est obligatoire maintenant à l'éducation nationale depuis 2 ans simplement. Alors quand même qu'il y a longtemps qu'on sait que les problèmes sont là, mais heureusement les enseignants ont pris le relais.
Alors qu'est-ce qu'on explique aux jeunes alors ?
Ben ça dépend, on explique aux jeunes, si vous voulez, quand on prend le thème de l'eau par exemple, ben économiser l'eau, ça c'est important.
Oui, ben Péroni l'économise énormément, ah oui, il boit de l'alcool.
Bel exemple, lui il aide. Bel exemple.
Mais je pense qu'il faut encourager à l'heure actuelle, on parle beaucoup du réchauffement climatique.
Et du développement durable.
Et du développement durable, alors c'est
enfin,
l'installation
tout ça,
dans le futur.
C'est des sigles, ça ne correspond pas à grand-chose.
Non, le réchauffement climatique est une réalité, une réalité réelle, non, on va dire. Là, il faut économiser l'énergie.
Oui, le poison existe, c'est l'antidote qu'on cherche.
L'antidote, c'est économiser les énergies qu'on dit fossiles, gaz, pétrole et charbon, pour qu'elles durent plus longtemps et de manière à trouver d'autres ressources énergétiques. Alors, il est évident qu'il faut être lucide. On ne va pas tout fonctionner avec des éoliennes et du soleil, c'est impossible, mais pour ses besoins domestiques, regardez le soleil qui chauffe vos toits, alors qu'il pourrait chauffer de l'eau, il suffit de mettre un petit capteur noir, c'est extrêmement simple, donc il y a une multitude de choses à faire, et là il faut s'y mettre, c'est une affaire sérieuse, quoi. On peut changer les choses en s'y mettant tous.
Mais il faudrait combien d'éoliennes ?
Alors les éoliennes, effectivement, c'est quelque chose, c'est un peu comme le TGV, c'est-à-dire que tout le monde veut les gares, mais personne ne veut les rails. On veut pareil, on veut avoir de l'électricité qui ne pollue pas, mais on ne veut pas d'éoliennes. Moi, je viens de donner l'autorisation dans ma commune pour 6 éoliennes qui ne seront pas très loin de chez moi. Je trouve qu'on est dans une période de transition aujourd'hui, d'une transition
c'est
énergétique.
C'est joli, les éoliennes.
Moi, j'aime ça, c'est des moulins.
On dirait une caravelle qui s'est crachée dans un champ et dont l'hélice
émerge. Elle continue de tourner.
Mais cela dit, bon, les politiciens font énormément de vent.
Vous avez raison. Dans le bon sens, les politiciens ont une tâche dure quand même.
Ah oui.
Ils ont une tâche difficile parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Il faut qu'ils imposent ces nouvelles réglementations. Vous savez, on parle de réchauffement climatique. Le coupable, on ne le voit pas. C'est ça qui est terrible. Le gaz carbonique, il est transparent. Il est transparent dans l'air,
inodore.
On ne le voit pas. Inodore. Et en plus, il agit sur la durée. C'est lancinant, c'est extrêmement lent. Ce n'est pas l'urgence devant laquelle on doit
réagir. On n'est pas pressé non plus.
On n'est pas pressé. C'est pour ça que ce n'est pas incitatif. Et donc, les hommes politiques ont cette lourde tâche de faire accélérer le processus. Quoi.
Est-ce que quand vous mettez des glaçons dans votre whisky, ça vous rappelle le boulot ?
Vous savez qu'il y a des... Vous savez qu'une histoire, à l'heure actuelle, en Antarctique, là je parle du pôle Sud, le pôle Sud, c'est l'Antarctique, c'est le contraire du pôle Nord. Et au pôle Sud, vous avez un glaçon absolument géant. Si vous mettez 28 francs côte à côte, vous recouvrez le tout de 2,5 km de glace. 28 France recouvertes de 2,5 km d'épaisseur de glace. Vous avez la taille du glaçon au sud. Et un des chercheurs français qui a eu la médaille d'or du CNRS, Claude Lorius et Jean Jouzel, ont découvert, en buvant, comme vous y pensez, qu'il y avait des petites bulles d'air emprisonnées dans la glace. Ils ont découvert ça au pôle sud et un jour, ils se sont dit, mais cet air qui est là-dedans, c'est de l'air qui est très vieux peut-être. Donc, et ils ont commencé à penser, analyser ces bulles d'air dans la glace, et c'est comme ça qu'ils retrouvent maintenant les climats du passé. Donc les archives du climat.
Moi, je crois qu'ils avaient gratté la glace, et puis finalement, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il était le patron de la patinoire. Non, c'est pas.
Non, mais ces petites bulles d'air, vous avez raison, dans la glace des boissons, ils se sont dit, mais cet air-là, c'est la mémoire de l'air de
la prisonnière dans la glace.
Alors, là, puisque c'est l'objet d'une grande expédition qui n'est pas encore commencée, mais qui va se dérouler en plusieurs phases, quel est l'intérêt de mesurer avec précision l'épaisseur des couches de glace ?
Alors, l'intérêt, c'est que, je vous l'ai dit, la banquise, c'est la glace qui est au pôle Nord. Elle est épaisse entre 2 et 3 mètres d'épaisseur. Vous voyez, pas plus du plancher au plafond. C'est pas plus que ça.
Non.
Entre 2 et 3 mètres d'épaisseur moyenne. Et cette couche de glace s'amenuise en surface. On le voit par satellite. Aussi, les gens qui habitent sur la circonférence
donc
polaire.
Donc, il deviendra un jour dangereux de marcher dessus.
Mais c'est déjà aujourd'hui, ça perturbe totalement les rencontres entre Inuits, on va dire. Si vous voulez, quand il y avait de la glace dans les fjords, on prenait son chien de traîneau et on allait en face. Et aujourd'hui, c'est devenu dangereux. Donc l'intérêt de la mesurer, c'est que nous allons revenir après cette expédition avec une valeur de référence qui sera l'épaisseur de la banquise sur l'ensemble de l'océan Arctique pour l'année polaire internationale. Et ça servira pour le futur.
Et vous en déduirez le nombre d'années qui nous restent avant le réchauffement ultime.
On aura une valeur de référence. Et dans le futur, il faudra renouveler ces mesures et on verra à quelle vitesse ça fond.
Combien de temps vous partez ?
Le survol de la banquise, ça durera 2 mois et demi.
À combien de mètres de la banquise ?
Alors la banquise doit être survolée à 50 mètres. On a un appareil de mesure qui mesure instantanément l'épaisseur de la glace quand on survole. Alors l'appareil sera 20 mètres de hauteur. Et comme ça, on va partir Spitzberg, pôle Nord, à la Alaska.
Alors, puisque vous faites les deux, qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Rouler à scooter à Paris ou voler en dirigeable au-dessus du pôle ?
Je trouve que rouler en scooter dans Paris,
beaucoup plus dangereux.
C'est exposé, quoi.
Ah, oui.
C'est exposé. C'est un outil formidable pour aller d'un point à un autre assez vite, assurer ses rendez-vous. Il faut avoir deux yeux devant, deux yeux derrière en permanence.
Oh, le dirigeable, c'est pas mal. Souvenez-vous du film de Bernard-Henri Lévy où Alain Delon allait faire ses courses en dirigeable.
Je l'ai pas vu jusque-là, moi. Je suis sorti avant. Mais on était nombreux, d'ailleurs, à sortir avant. Hein.
Faut-il être aventurier pour participer aux Grosses Têtes ? Eh bien, la réponse est oui. La preuve, un jeu. Jean-Louis Etienne était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard le 1er février dernier.
Question de M. Roger de Dieppe qui a dit « Paris sera bientôt la seule ville au monde où au réveil, on pourra entendre les petits oiseaux tousser. »
Coluche ?
Non. Alors, ce n'est pas un rigolo, c'est quelqu'un que nous avons cité de temps en temps, qui était un écrivain et essayiste catholique.
Jean Guiton ? Cesbron ?
Oui, Gilbert Cesbron. Mm-hmm. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et la question de Mme Petite-Bailleux, qui est un peu moins sérieuse, qui a dit « Un sous-marin pour une baleine, c'est un gros suppositoire.
» Maïté.
Ah, c'est drôle. Oh.
Non. Kersauzon.
Non.
Non, mais je vous ferai entendre dans quelques instants
Jean-Yann.
Un exposé de Kersauzon sur ses relations avec les cétacés.
Sim.
Non.
Jean-Yann.
Alors, c'est quelqu'un qui a disparu, comme Jean-Yann, qui était un ami des Grosses Têtes, quand il n'était pas Grosses Têtes lui-même. Non.
Jean Carmé.
Non.
Jean Carmé. Bonne réponse de Jean-Claude Brienne.
Bravo Jean-Claude.
Bravo. Alors, je vous avais promis de vous faire entendre un exposé de Kersauzon sur ses relations avec les baleines. Et cet exposé, il a été fait ici même.
Sexuel, très peu. J'aime pas les grosses. Intellectuel, très peu aussi. Affectif, nul, parce qu'il y en a beaucoup trop. Avec les mecs de Greenpeace, ils disent qu'il n'y a pas de baleine. C'est vrai, si on va regarder au large du Touquet, de toute façon, il n'y en a jamais une qui est passée. C'est un mammifère, c'est comme une vache de gros volume. J'ai rarement vu une baleine sortir de l'eau pour m'expliquer Einstein. J'ai vu peut-être dedans une dizaine de fois, moi. Ça abîme les bateaux. C'est comme si vous avez un chemin de ferme avec une vache au milieu. Vous passez en bagnole. Vous passez en bagnole à 20 à l'heure, vous prenez la vache pour faire la calandre. C'est pareil. La baleine est là dans l'eau. Ça roupillote et tout. Et ça fait une masse de chair qui va de 6 à 32 tonnes. Moi, j'ai arrêté pile un bateau de 40 tonnes, c'est à 10 nœuds. Les baleines, c'est à fleur d'eau. Il n'y a que dans les dessins de Mickey que la baleine, elle est complètement sortie de l'eau. Dans la réalité, c'est plus pire que l'iceberg. De la baleine à dépasser, il doit y avoir son jet d'eau, le jouet a fait bidet.
Jean-Louis-Étienne, vous confirmez cette description ?
Non, mais je confirme l'auteur, surtout, effectivement, oui, ça lui va très bien.
Oui.
Mais c'est vrai que tous les marins craignent les cétacés, parce qu'il y a des collisions, et c'est leurs bateaux qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus, on va dire, fragiles. Dès qu'ils heurtent un cétacé comme ça, il y a eu des
mais naufrages. La baleine, il met malice ou pas ?
Oh non. Non, la baleine, elle est paisiblement à la surface, elle vient respirer. Donc, effectivement, comme elle est à fleur d'eau, et si vous ne voyez pas son expiration, on ne la voit pas. Quoi, hein.
Surtout la nuit.
Oui, surtout la nuit, oui, c'est comme les icebergs, vous avez raison.
Quel souvenir gardez-vous de l'îlot de Clipperton dont on avait parlé ici, après séjour, un livre, qui nous avait assez fascinés, parce qu'avec votre petite famille, vous vous étiez installé dans une île complètement déserte. Hein.
Et une série télé formidable. Un truc suspense à suivre, c'était extraordinaire. Les enfants, ils étaient comme ça. Quoi.
Ah oui.
Ah, c'était formidable.
À Clipperton, c'est une île française qui est dans le Pacifique, qui est un anneau corallien. Il n'y a toujours personne. On est parti. On a laissé là-bas des fous de bassin. Des fous masqués. Alors, bassins sont en Bretagne. C'est des fous masqués. C'est la plus grande colonie au monde de fous.
Combien de temps vous étiez resté ?
On est resté là-bas 4 mois. Si vous voulez, ce qu'on retient quand on est à Clipperton, c'est qu'on passe son temps à se faire chier dessus. Vous avez des fous en permanence, ces oiseaux qui vous survolent sans arrêt. Il y a des frégates. Alors, les fous ont des selles blanches qui sentent pas trop fort, mais les frégates ont des selles noires qui sont assez fortes. Mais quand je vous en parle, parce que c'est sans arrêt.
Ah oui.
C'est des avalanches. C'est pour ça que.
Faudrait ouvrir un pressing là-bas. Hein.
Mais c'est pour ça que cette île, si vous voulez, comme toutes les îles à guano, vous savez, le guano, ce sont les fientes d'oiseaux. C'était des mines de phosphate. C'était exploité pour du phosphate. Et j'ai vraiment vécu ce que c'est que la création d'un gisement de phosphate, quoi. C'est vraiment des fientes accumulées sur des centaines d'années.
Et ça vous a laissé un bon souvenir quand même.
Alors, un truc, ça ne fait pas pousser les cheveux. Parce que.
Oui, c'est ce qu'on disait.
C'est sûr, parce qu'il y a au moins 3 ou 4 selles par jour sur le crâne, si vous voulez. Je me suis dit, si jamais je reviens et que ça pousse, je fais fortune. Ça ne marche pas. Donc, c'était un souvenir. On a fait un inventaire naturaliste. Il y a 40 chercheurs qui se sont succédés. Et donc, on a fait un inventaire de la biodiversité de cette île française. Et alors, il y a un ennemi qui persiste et qu'on a laissé là-bas, c'est le rat. Il y a eu un échouage de bateaux en l'an 2000 qui a amené des rats, et le rat se développe.
C'est l'horreur.
C'est l'horreur, le rat est en train de tout bouffer.
Et il bouleverse l'équilibre.
Il bouleverse à grande vitesse.
C'est pas un paradis, votre île, hein.
Il faut arrêter la prolifération des rats. Oui, mais attendez, vous mettez des chats, les chats vont bouffer les oiseaux, ils vont pas, ils vont pas faire de détails.
Oui.
Donc on a un mec qui s'appelle Ratator. C'est un ingénieur de l'INRA de Rennes et qui est le spécialiste des espèces introduites qui travaille sur le sujet.
Ah, il est de l'INRA.
INRA, vous avez raison.
Les grosses têtes.
C'est le best-of de l'été.
Sur RTL.
Prévoyez-vous que quand il n'y aura plus de pétrole, les ballons dirigeables remplaceront les avions ?
Avant, on y va. On revient aux dirigeables, aux plus légers que l'air. L'histoire des dirigeables s'est arrêtée, malheureusement, avec l'accident de l'Hindenburg.
Oui.
Ce dirigeable qui a traversé l'Atlantique. Oui. Mais vous savez que, c'était en 1937, dans les années 20-30, il y avait des lignes régulières qui partaient de l'Europe aux États-Unis.
Combien de temps on mettait ?
5 jours, avec une centaine de passagers. C'était des croisières de l'air, très confortables.
5 jours là-haut ?
Ah ben oui, mais vous avez tout. Si vous partez sur un bateau, c'est
magnifique.
C'est exactement pareil. Et puis et ça va revenir, parce qu'un avion, pour tenir en l'air, ou un hélico, il est obligé de... Consommer.
Ah, vous le faites bien. Hein.
Ah oui, okay.
Il fait la louette.
Pour rester en l'air, là c'est une vessie d'hélium, c'est plus l'hydrogène, donc c'est beaucoup moins dangereux.
Mais Paris-Nice, par exemple, en ballon dirigeable,
deux jours.
Ça dépend du vent. Hein.
Ah oui.
Mais ça, c'est sensible au vent.
Ah oui, vous pouvez vous retrouver à Lille.
Mais on peut.
Non, pardon, contraire.
On peut changer d'altitude, on peut avoir des vents de vent favorables, mais ça peut durer quelques heures.
Mais
10 heures,
par exemple. Ah,
10 heures.
Ah, voilà. Oui, c'est un petit peu plus long.
Le TGV,
pour le week-end,
là,
pour le moment, le TGV, il faut choisir ses voyages, oui.
Mais la vue
est différente.
Ah oui, la vue doit être belle. Hein.
Ah oui, la vue est différente. Et puis, c'est très, très silencieux, ça consomme très peu. On pourra un jour déplacer des lourdes charges.
Et on peut se diriger aussi exactement qu'avec un avion ?
Alors ça s'appelle dirigeable, effectivement, parce qu'on peut se diriger. Donc c'est une grosse vessie, une sorte de ballon de rugby énorme que vous avez au-dessus de la tête.
Et vous êtes combien dedans ?
On peut être dans
Alors on peut être une dizaine. Ça a une charge utile d'une tonne et demie. Alors aujourd'hui, il n'y a que des petits dirigeables. Ça fait quand même 55 mètres de long, 17 mètres de hauteur. Et le futur, ça reviendra. On a vu des projets d'hôtels.
Vous avez trouvé le vôtre, ça y est.
J'ai trouvé le mien en Russie. Je suis en train de le faire construire.
Et vous avez gonflé comment sur l'intercept ?
La bouche ?
À l'hélium. On s'y met plusieurs.
Vous emmenez, là-bas. Vous emmenez les bouteilles, c'est quoi ?
Non, vous allez le voir en
Russie, docteur Étienne ? Il n'y en a pas en France ?
Il n'y a pas en France, non. Il n'y a pas
en
France.
Il n'y a pas de fabricant en France.
Il y a Zeppelin qui en fait en Allemagne, mais très peu. Et puis les États-Unis en construisent quelques-uns. J'ai trouvé aux États-Unis un chantier. Et vous allez le voir en France, dans le ciel, à partir du mois d'août 2007, et
sur
nous partirons.
Oui.
Je ne sais pas sur les plages, mais on pourra le voir.
Ah, vous partirez d'ici.
On part d'ici vers le pôle Nord.
Avec une banderole publicitaire.
Oui, nous sommes sponsorisés. L'expédition s'appelle Total Polar Ship.
Oui. Est-ce que Total, qui finance votre expédition, a des arrière-pensées pétrolifères ?
Pas avec mon expédition, non.
Après. Il se pourrait.
Ben, si vous voulez pas que Total,
sous la banquise, on trouve du gaz et du pétrole.
Mais
ça
on
serait le comble, ça.
Mais on le sait déjà.
Ça serait le comble.
Mais on le sait déjà, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le plateau continental, qui est le prolongement de la Terre sous la mer. Qui
c'est
un
petit déjeuner dans les Hilton, ça.
Et on sait qu'il y a des grandes réserves de gaz, de pétrole, quoi. Et mon partenaire, si vous voulez, je l'ai choisi, je l'ai amené. C'est un partenaire donc, du pétrole, je l'ai, et du gaz et de l'électricité aujourd'hui. Je l'ai amené à travailler sur ce projet, à s'ouvrir publiquement sur un sujet où on parlera d'économie d'énergie et du réchauffement climatique.
En fait, bon, ils rêvent d'installer des stations-service sur la banquise. Hein.
Très peu de clients. Et le boulot, mais les réserves de gaz et de pétrole
donne
sont
conscience
très importantes.
Aussi.
Mais est-ce que c'est pas un peu bizarre de faire des économies d'énergie? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux penser à trouver une autre énergie? Puisque faire des économies d'énergie, ça ne fait que prolonger le truc.
Donc disons qu'on va faire des économies d'énergie en pétrole, gaz et charbon, mais on est déjà, si vous voulez, depuis quelques temps quand même, en train de réfléchir à d'autres ressources. Le vent, la biomasse,
la betterave.
La betterave qui peut en faire partie.
L'autre jour, j'ai vu qu'il y avait une éolienne qui était tombée parce qu'il y avait trop de vent.
Eh oui, elle devait être mal fixée ou je ne sais pas, trop de vent.
Pourtant, c'est fait pour le vent, les éoliennes.
Oui, hein? Je ne sais pas, je n'ai pas lu l'enquête a posteriori, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais enfin, d'une manière générale, c'est solide, mais c'est géantissime, c'est surprenant. Il y a une conférence sur le GIEC, Groupe International d'études sur le climat, et tous les 4 ans, ils sortent un rapport, c'est tous les savants du monde, si vous voulez, qui sont indépendants, parce que c'est important. Parce que
c'est pas des politiques.
C'est pas des politiques, donc ils donnent des situations et des consignes gouvernementales. Donc des encouragements, bien sûr, à ce fameux protocole de Kyoto que les Américains n'ont
toujours pas signé.
Mais les Américains, ils y arriveront, il faut changer de président et ça
va
arriver.
Mais bientôt, il va être insuffisant, ce protocole, d'ailleurs. Il est déjà.
Si déjà tout le monde le signait, on irait vers... C'est important qu'il y ait une mobilisation mondiale sur ces économies et la mise en place de nouvelles ressources. Elles existent déjà. C'est un peu inquiétant de parler du réchauffement climatique, que la mer va monter, que le climat va changer, qu'il va y avoir des nouvelles espèces qui vont, que l'ours polaire risque de disparaître. En même temps, on est dans un virage intéressant où l'humanité, elle doit faire face à ce changement climatique et en même temps inventer des nouvelles ressources. Donc il y a en même temps matière à créer.
Alors, on sait quelles seront ces nouvelles ressources. Déjà, on les entrevoit, même quand elles ne sont pas encore utilisées. Il y a le vent.
Le vent, bien sûr.
Il y a l'énergie hydraulique.
L'hydraulique.
Solaire.
Il y a
le solaire à la fois pour faire de l'électricité,
il y a le
de la chaleur
aussi.
Et il y a le nucléaire. Alors le nucléaire est une énergie dont on ne pourra pas se passer. C'est une énergie qui couvre une grande partie de nos besoins aujourd'hui. Et avec tout le respect que j'ai pour les ingénieurs de très haut niveau qui travaillent sur le sujet, on est encore dans une période de transition, on est dans une période d'adolescence, on va dire, parce qu'il va y avoir une évolution sur cette énergie-là. Alors, pour la faire aimer, cette énergie, c'est vachement difficile, quoi, hein, parce qu'effectivement, elle a été détournée, mais elle nous rapporte, ça fait peur, vous avez raison. Mais j'en reviens, si vous voulez, à E égale MC2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Einstein, qui a trouvé cette magique formule, que l'énergie qui est extraite du noyau, quand on le coupe ou quand on le fait fusionner, est proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière.
Ça a c'est changé ma vie, là-bas, ça a changé
votre... oui. Vous en rendez pas compte, mais ça, quand vous allumez votre bouton chez vos arrivants, ça a changé votre vie, c'est évident, quoi. Et donc, dans le futur, il y aura ITER, c'est un projet qui a été la France a été choisie pour ça, c'est recréer sur Terre l'énergie du soleil, il faudra la maîtriser, c'est peut-être dans 50, 60, 80 ans.
Pourquoi ça fond au pôle Nord et que ça fond pas du tout au pôle Sud ?
Alors ça, ah bon, c'est une bonne question. Au pôle Nord, ça fond parce que ça change de couleur. Je m'explique, si vous voulez. Le pôle Nord reste froid parce qu'il est blanc tout le temps. La banquise est blanche et elle réfléchit le rayonnement du soleil. Quand vous avez le soleil Mars...
Ah, elle réfléchit aussi, elle la réfléchit. Banquise.
Ah ben, dedans. Et donc, comme il y a moins de banquise, il y a plus d'eau, plus de terre qui capte. Regardez, faites l'expérience, vous allez sur un parking, vous mettez la main sur une voiture blanche et une main sur la voiture noire. Ah ! Vous vous brûlez sur la noire. C'est un capteur, le foncé, le capteur du rayonnement solaire. La banquise, quand elle fond, elle libère de l'eau libre, de l'océan, qui devient capteur et qui fait fondre par proximité la banquise. Donc il y a un emballement au nord, beaucoup plus qu'au sud.
Mais le Groenland, il était vert quand on l'a découvert, il n'y avait pas de glace.
Il y a très longtemps, et puis il s'est recouvert. Bon, c'était la ceinture qui était quand même verte, mais vous avez raison. C'était une période où il n'y avait pas de glace et le Groenland de nouveau est en train de fondre. C'est une évidence.
J'ai déménagé, je vais aller habiter glacière, moi.
Question de M. Romain de Nice. En Italie, que désigne-t-on par l'expression « Dieu seul me voit » ?
Quand on va aux toilettes.
Aux toilettes.
Non.
Non.
La masturbation.
La masturbation. Bonne réponse d'Éric Logérias. La rapidité de la réponse me laisse à penser que vous avez vécu gamin là-bas.
Un peu, mais c'est très tulipé, si, très agité là-bas quand même.
Vous n'êtes jamais masturbé aux toilettes. Moi je dis aux toilettes, ça, je pense à ça.
À qui tu
ça.
Parles là?
Oui, bien sûr, mais attendez pas à Tahiti, hein, parce que j'avais des petits moyens.
Oui.
Faut y aller, hein.
Oh bah, dites. Ça me rappelle cette blague qu'on racontait quand on était petit à l'école. C'est, ta mère t'a déjà surpris en train de te masturber dans le placard à balai? Là, on répond non, en général. Continue, c'est une bonne cachette.
Alors, l'expédition de Jean-Louis Etienne va durer 8 semaines, mais en fait, il y aura les préliminaires qui seront longs, hein.
Il y a une préparation, donc on va le remonter, le gonfler, donc, et ensuite on va faire une période d'entraînement intensif. Des pilotes de dirigeables, il n'y en a plus beaucoup dans le monde. On va avoir un Français qui travaille chez Zeppelin, un Américain et un Russe. Et ensuite, on va former des nouveaux pilotes.
Et vous serez combien à bord ?
Il y a beaucoup plus de monde au sol, si vous voulez, qu'en l'air. Hein. Au sol, il faut donc une certaine équipe. Et les pilotes vont se relayer. On aura des camps de base. Un camp de base au pôle Nord, un camp de base au pôle Nord magnétique, un camp de base au large de l'Alaska.
Vous vous poserez de temps en temps ?
Ah ben oui, parce que quand même, il faut faire le plein. C'est des petits moteurs, mais il faut mettre un peu d'essence. Et alors donc, on a des camps de base. Et à partir de là, on va rayonner.
Ah, il y a un petit moteur à essence.
Ah oui.
Ah oui.
Et oui, deux petits moteurs à essence qui permettent de se diriger pour se déplacer où on
mais
veut,
qui sont des moteurs de voiture de comme importance comme...
Et c'est un moteur spécial qui marche dans toutes les configurations. C'est-à-dire que vous le mettez la tête en bas pour décoller, ça pousse donc l'hélice. Ensuite, vous le redressez pour redescendre, vous mettez l'hélice en l'air et puis vous redescendez. Donc, il faut des moteurs qui puissent être lubrifiés dans toutes les configurations. Ah, vous voyez, ça vous mettez votre voiture sur le capot, si vous continuez à tourner le moteur, ça va s'arrêter parce qu'elle n'est pas faite pour être lubrifiée la tête en bas. Quoi. Alors, le dirigeable, c'est un moteur spécial. Et ce sont des moteurs d'avions de voltige. Les avions de voltige, ils évoluent dans tous les sens et donc ils ont une lubrification particulière pour fonctionner, donc ils sont sur le dirigeable.
Moi, mon petit moteur marche dans toutes les directions.
Même la tête en bas.
Le 1er février dernier, soyons sérieux, Philippe Bouvard était avec Macha Merrill, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jacques Balutin, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur Jean-Louis Etienne.
Ça, je pense que ça va intéresser Jean-Louis Etienne, la nouvelle machine à fric que constitue le tourisme spatial. Alors là, il ne s'agit plus de ballons dirigeables. Hein.
Ah oui, oui, non.
Il s'agit de fric, fusées.
Ah,
oui.
J'avais entendu machine à fric.
Non, moi aussi, je veux que ça fric belge. Ah, oui.
Alors, vous avez le baptême de l'espace. Et ça, c'est Virgin hein, qui a donné le signal. Le baptême de l'espace pour combien? 200 000 $.
Eh oui, quand
bon,
même.
On va jusqu'où
moi, j'aime bien.
Vous avez un petit week-end dans une chambre avec vue sur la Terre.
On a pesanteur. Hein,
1 million de dollars la nuit.
Ah. Ouais.
Vous avez la sortie en scaphandre en plus, 15 ouais. millions de dollars.
Ah ouais.
Plus l'assurance vie. Une semaine à bord de la Station Spatiale Internationale. 21 millions de dollars. Oh, ouais. Mais on a vu, c'est ce qu'a payé
le russe.
Et alors, vous avez le tour de la Lune pour 100 millions de dollars.
Alors, je connais Gisèle, elle le fait pour beaucoup moins cher que ça.
Et la grosse Lulu, c'est 50 euros.
La Lune, c'est 50 euros le tour de la Lune.
Et pour 80
euros. Sauf si vous voulez vous poser. Si vous vous posez, c'est plus cher.
Pour 80 euros, tu peux te poser.
Ah oui, absolument.
Et moi, puis alors, des nouvelles de l'A380, qui est en quelque sorte l'arlésienne de l'aéronautique.
Oh, on est mal, hein.
Alors bon, ben, c'est vrai
qu'ils
ont...
Ma femme, il a du retard.
Ah oui.
Ah, ils nous ont mis dans
le trou. Vous avez vu, Boeing nous a dépassés. Hein. On est mal. Oui.
Et c'est un bel avion, quand même.
Magnifique, mais il vole
superbe,
pas.
Superbe, superbe. Mais alors, il rencontre des problèmes, excusez-nous, on va croire que vraiment on focalise là-dessus, niveau des toilettes.
Voilà, j'étais sûr qu'il
au niveau des toilettes.
Vous imaginez 800 personnes.
Oui, alors, il faut qu'il y ait des chasses d'eau accélérées.
Bah oui.
Bah oui.
Parce que 800 personnes, même avec une dizaine de cabines, ça défèque. Hein.
Tout le monde y va pas en même temps.
Non,
oui,
non,
mais quand même, il faut accueillir tout ce monde-là.
On peut se fier, là, comme ailleurs, on peut se fier à la loi des grands nombres. Hein.
Oui, oui.
On sait qu'il y a un certain nombre de gens qui, chaque heure, vont éprouver le besoin de satisfaire des envies.
Eh ben, on leur donne des petites bouteilles, comme a dit M. Etienne.
Ah bon, non, attends, vous vous rendez compte.
Attends, ta bouteille d'une main, ton sac avec lequel tu dégueules de l'autre, comment tu te tiens après?
Vous pouvez le billet s'il faut pisser dans des bouteilles.
Tu pisses dans le sac et tu dégueules dans la bouteille. Oh là là,
le problème, c'est aussi que l'expérience montre que les passagers des vols aériens jettent n'importe quoi dans les toilettes. Mmh. On fait donc des essais actuellement pour les toilettes de la 380 en jetant des paires de chaussettes dans
les
lunettes.
Ils sont fous, ils jettent des paires de chaussettes.
Oui,
mais c'est quand il n'y a plus de papier.
Je ne sais pas. Je pense que
paires de chaussettes.
Ben oui,
ben oui.
Et en plus, ils en distribuent quand vous montez dans l'avion pour les longs voyages.
Un caleçon, je pourrais comprendre, parce que bon, l'aspiration est forte. Alors bon, un caleçon, ça peut se comprendre, mais les chaussettes.
Un préservatif, ça bouche, hein.
L'argenterie du bord aussi, celle qu'on a trouvée sur le plateau. Ah oui, oui, non, mais ça fait
l'argenterie, c'est pour la première classe, quand même.
Oui,
l'argenterie.
Quantité de toilettes, j'imagine, là.
Oui, mais imaginez que le système tombe en panne pendant un vol transatlantique.
Oh, on est mal.
Distribue des sacs en plastique.
Et si on meurt noyé dans l'avion, c'est ridicule.
Ils arrivent bronzés.
Il faut mettre des tissots, les toilettes.
Des tissots hygiéniques.
Il faut mettre des tamis, je ne sais pas, des
sièges. Moi, on me demande souvent comment on fait sur la banquise.
Oui.
Quand il fait moins 40.
Vite, ben, non, vite.
On fait comme ici, mais effectivement, on ne prend pas le journal. Hein.
Oui, c'est ça. Oui.
On va vite, quoi. C'est la seule différence.
Et on fait un trou dans la glace et
ça gèle en
même temps. Non, si vous laissez là, vous
non, mais il pollue pas.
Oui, c'est si peu.
Mais c'est biodégradable.
Il faut bien que les pingouins se nourrissent.
Il paraît qu'elle a jauni la banquise, justement. Elle jaunit.
Ben parce qu'on
ils n'arrêtent pas de pisser. Ils n'arrêtent pas de pisser sur la banquise. Forcément, jauni.
Un bon détartrage de banquise, tiens.
Les grosses têtes.
C'est le best-of de l'été.
Sur RTL.
Une nouvelle un peu triste pour le rayonnement de la culture française. La succursale du Crazy Horse à Singapour vient de fermer faute de clients.
Aïe, aïe, aïe.
On ferme le Crazy Horse, mais on ouvre des succursales du Louvre partout et de Beaubourg.
Mais oui,
c'est pas le même genre de nu.
Non,
hein.
Pas tout à fait.
Et de toute façon, tous les journaux islamistes mettent à l'index. Et ailleurs, les concours de Miss et de Top Model, c'est ça. Ils ne supportent pas la nudité féminine.
Eh non.
Pas désagréable de mettre une danseuse du Crazy Horse à l'index.
Votre chanson préférée, Jean-Louis Etienne?
Ah, il y en a pas mal, mais j'aime bien Véronique Sanson.
Ah oui.
J'aime bien cette chanteuse-là. Et il y en a une que j'écoutais beaucoup, c'était Vancouver.
Ah, ben faut dire que c'est un environnement déjà un peu frisqué.
Oui, et puis je l'ai écouté quand j'étais médecin, parce que j'ai quand même été médecin pendant 15 ans comme généraliste, et je faisais les remplacements, je l'écoutais. Et donc c'était il y a 30 ans cette chanson, j'ai remarqué que c'était en 76. Et elle était soucieuse d'inventer sa vie. Et je me souviens, moi, j'étais médecin, et je me disais, mais je faisais des remplacements de docteur, je me disais, ça me convient pas, je vais pas passer ma vie comme ça. Et j'avais ce souci d'inventer ma vie.
Je ne vois jamais le matin. Et c'est bien.
Vous disiez inventer sa vie. Là, il y a un Australien qui vend la sienne sur Internet. Alors, ça s'est jamais fait. C'est assez étonnant. On lui donne 10 000 dollars et on a le droit, pendant un certain temps, de se prendre pour lui. C'est-à-dire qu'il donne son identité, il donne son numéro de téléphone, il donne ses vêtements, son ordinateur,
son code de carte bleue.
Il présente ses histoires d'amour, enfin des partenaires avec qui il a eu souvent de mauvaises relations, ça c'est pas un cadeau. Et pendant 2 mois en plus, il a droit de fréquenter la famille de celui qui a vendu sa vie et d'appeler à toute heure du jour et de la nuit le vendeur pour lui demander conseil s'il se trouve dans une situation difficile.
C'est où ça ?
En Australie. Il n'y a que là qu'il se passe quelque chose.
Oui,
je me demande ce qu'on fait à Paris. Tout vient d'Australie.
Mais ça s'appelle Cyrano, cette histoire, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui dicte.
Oui, il y a un peu de ça, oui. Et en même temps, comme c'est un grand sportif, il loue son matériel de surf, d'escalade, de skateboard. Alors évidemment, bon, il faut prendre un acheteur dont le profil correspond au sien. Hein.
Oui, c'est sûr.
Mais oui, qu'il soit capable de faire tout ça et qu'il en ait envie.
Qu'est-ce que je ferais, moi, avec le surf ?
Mais nous, quand on joue un rôle au théâtre, est-ce que c'est pas ça que nous faisons ? Nous nous glissons dans la peau de quelqu'un d'autre.
Oui, mais enfin, vous payez pas pour ça. On vous paye. Hein.
J'espère bien.
C'est souvent dans l'imaginaire, en plus.
Oui. Attendez, pouvoir se prendre légalement pour un autre, parce qu'il a pris toutes ses précautions, c'est quand même une belle expérience. Hein.
C'est peut-être le moment d'aller cambrioler, justement, de faire des trucs.
De faire des bêtises.
Oui. Faire endosser par un autre, parfait, ça.
Ça, c'est au Canada, mais pas à Vancouver, à Ottawa. On affiche toujours sur Internet les parents qui ne payent pas la pension alimentaire pour leurs enfants.
À l'index, c'est comme bien. Ça, c'est dégueulasse. Ouais.
Mais comme on avait affiché les joueurs insolvables à la porte des clubs de Londres, hein, c'est les mauvais payeurs. Alors il paraît que ça les stimule un peu, qu'ils n'ont pas envie que tout le monde les reconnaisse.
Non, mais il y avait l'huissier là, qui vous suivait déguisé en panthère rose aussi. Et, il faisait ça en Amérique du Sud, je ne sais plus, au Chili ou en Argentine. Quand vous aviez des choses impayées, il y avait un huissier qui vous suivait partout habillé en panthère rose. Donc les gens voyaient dans la rue.
Carnaval, disaient, ça.
Voilà. Non, tout le temps. Et au bout d'un moment, le mec en avait ras-le-bol d'avoir une panthère rose derrière, il payait, puis voilà, il était débarrassé. Quoi.
Avant de retrouver RTL Soir, présenté par Daniel Ferrin, la suite et la fin. Oh, des grosses têtes qu'on retrouvera demain d'ailleurs. Le 1er février dernier, l'invité d'honneur était Jean-Louis Etienne.
Et une question que j'ai spécialement sélectionnée de Madame Marcy pour Jean-Louis Etienne. Quelles sont, par leur superficie, les 3 plus grandes îles du monde ?
L'Australie.
Alors, si on considère que l'Antarctique en est une, c'est la plus grande, mais on considère comme un continent l'Antarctique.
Oui. Oui.
L'Australie.
Oui.
Le Groenland.
Oui.
Et l'île de Ré.
Bon, si on ajoute une quatrième.
Et l'Angleterre.
Madagascar.
C'est grand, mais c'est. Non, il y a plus grand.
Non, mais enfin, c'est subsidiaire, hein, ça.
Comme alors, donc, l'Antarctique, l'Australie, le Groenland.
Oh, c'est la Nouvelle-Guinée.
La Nouvelle-Guinée.
Moi, j'en ai jamais fait le tour. Je ne suis jamais allé non plus. C'est une bonne réponse de Jean-Louis Etienne. Et la question de M. Borel, quelle différence entre un bateau et un navire ?
L'un qui est à voile et l'autre qui un qui est en bois et un qui est en fer.
Un voile et l'autre à vapeur.
Un navire.
Il y en a un qui transporte des marchandises.
C'est la taille à partir d'un certain nombre de mètres.
Oui, exactement. Hein,
c'est
ça.
C'est au-delà de 40 mètres.
Mettons 25 et vous aurez bien répondu.
Il y en a un qui a des canots de sauvetage et l'autre des bouées.
Voilà.
Au-delà de 25 mètres, un bateau devient un navire.
Un navire, c'est ça.
Vous savez les petits bateaux.
Oui.
Mais les bateaux sont petits. Ouais. C'est mignon.
L'histoire du jour, je vais demander à Jean-Claude Brialy de bien vouloir la raconter. C'est M. Grigaud de Saint-Maur-des-Fossés qui l'a envoyée, mais elle se déroule très loin de la région parisienne.
Alors, ça se passe dans un village africain. Un beau jour, une femme accouche d'un enfant blanc. Alors, le mari fonce chez le seul missionnaire blanc du village et lui dit « Alors, comme ça, ma femme a eu un gosse blanc, je suis donc cocu. » Mais non, tu n'es pas cocu, ça s'appelle l'hérédité naturelle. Viens, je vais t'expliquer. Tu vois ces chèvres-là, hein, elles sont toutes blanches, sauf une qui est noire. c'est la loi de la nature, on n'y peut rien. Et le mari lui répond, ok, je ne dirai rien pour le gosse, mais toi tu ne dis rien pour la chèvre.
La dernière citation revient à Monsieur Moreau, qui a dit « Pour lutter contre le mal de mer, sucez une noix de muscade sans l'avaler car c'est toxique. Et si vous n'avez pas de noix de muscade, allez-y à vélo. »
C'est français ?
C'est français.
Allez ?
Non.
Non.
Pierre Dac ?
Courteline ?
Non.
Non.
Fédot ?
Fédot.
C'est nettement
la biche.
Plus récent, bien que ce ne soit plus
Francis
de ce monde.
Blanche, Francis Blanche, oui.
Non.
Des proches.
Gerdac.
C'est des proches. Bonne réponse de Jacques Bellutin. Et puis un grand merci à Jean-Louis Etienne d'être venu en prélude à cette grande expédition qui ne connaîtra son terme que dans plus d'un an.
En avril 2008.
Ouais. En avril 2008. Et là, ce sera encore une victoire pour la France et puis une raison de vous réinviter. Merci, bravo, à demain.